Monseigneur Jean Langevin. Le premier évêque de Rimouski est né à Québec le 22 septembre 1821. Il a acquis de l'expérience en pastorale et en éducation comme professeur au séminaire de Québec, curé de Sainte-Claire et de Beauport et principal de l'École normale Laval. Élu le 15 janvier 1867 comme évêque du nouveau diocèse de Rimouski, il est ordonné évêque à Québec et arrive à Rimouski le 1er mai suivant. Sa démission est acceptée le 15 janvier 1891 et il meurt à 70 ans le 26 janvier 1892. Il est inhumé dans le cœur de la cathédrale et ses restes ont été transportés au cimetière de Rimouski en 1967. Le territoire du nouveau diocèse de Rimouski est immense et comprend la rive nord du Saint-Laurent, appelée aussi la côte du Labrador, de la rivière Portneuf à Blanc-Sablon. Sur la rive sud, le district de Gaspé, la Gaspésie, et celui de Rimouski, moins trois paroisses, Saint-Patrice-de-Rivière-du-Loup, Notre-Dame-du-Portage et Saint-Antonin. Les distances considérables, l'augmentation de la population et l'évolution socio-économique entraînent le détachement de la Côte-Nord en 1882, préfecture du Golfe-Saint-Laurent, et de la Gaspésie en 1922, diocèse de Gaspé. En 1867, la population très dispersée comprend 45 000 catholiques sur 60 000 habitants, répartis dans 32 paroisses et une quinzaine de missions desservies par 46 prêtres. L'organisation du diocèse. En un mot, tout est à créer et cela sans moyens humains. Monseigneur Jean Langevin. L'évêque exagère un peu, car plusieurs institutions existent déjà, mais il reste que la mise en place d'un nouveau diocèse est exigeante à tout point de vue, et l'évêque va y consacrer beaucoup d'énergie. Dans la ville épiscopale. Monseigneur Langevin a l'avantage de ne pas avoir à construire une cathédrale. L'église de la paroisse Saint-Germain de Rimouski, ouverte au culte en 1862, va devenir sa cathédrale, l'église mère de toutes les églises du diocèse. En revanche, pour se loger, il doit construire en 1869 un évêché attenant au presbytère de la paroisse. Les loustiques l'appellent l'Arche de Zoé, un des frères de l'évêque. Pour la formation du clergé, essentiel dans un diocèse, Monseigneur Langevin peut compter sur une jeune institution. Le Collège industriel, ouvert en 1854, qui enseigne le latin depuis 1863. Il en fait son séminaire diocésain, Petit et Grand Séminaire, en 1870. Ses locaux situés dans l'ancienne église paroissiale sont trop exigus et l'évêque entreprend la construction d'un nouvel édifice, inauguré pompeusement en 1876. Comble de malheur, cette fierté de l'évêque est rasée par les flammes en 1881. Le séminaire s'installe dans le couvent voisin des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame en 1882. Du séminaire, Monseigneur Langevin a fait une œuvre privilégiée, y étant très actif à titre de supérieur, de 1867 à 1882 et de 1883 à 1885, et de professeur, et y intéressant son frère, grand vicaire Edmond. Cette institution qui lui coûte de l'argent et un personnel enseignant lui fournit 105 nouveaux prêtres jusqu'en 1891, si bien que le diocèse est autosuffisant au cours des années 1880 et compte environ 110 prêtres à la fin de l'épiscopat de Monseigneur Langevin. L'administration diocésaine est simplifiée et repose en grande partie sur le grand vicaire ou vicaire général Edmond Langevin, frère de l'évêque, un bon théologien, un humaniste cultivé et un homme expérimenté. Un conseil particulier de 5 membres les appuie, lui et l'évêque, avant la création d'un chapitre de chanoines en 1877. Des archiprêtres ou vicaires forains secondent ainsi l'évêque dans leur arrondissement ou district. Malgré tout cela, certains reprochent à Monseigneur Langevin de ne faire que ce qu'il voulait, ce qui n'est pas totalement faux. Les paroisses. Aux 16 paroisses qui existent à son arrivée, selon les limites actuelles, l'évêque en ajoute 29 nouvelles. Elles se situent de plus en plus à l'intérieur des terres et notamment dans les vallées de la Matapédia et du Témiscouata. De nombreuses missions sont aussi ouvertes. Avec la multiplication des paroisses et des missions, le diocèse devient un vaste chantier de construction et de rénovation d'édifices religieux, églises, chapelles, presbytères. Monseigneur Langevin garde un œil vigilant sur ses activités et règle au besoin les litiges, les fameuses querelles d'emplacement ou de partage des coûts. À la tête de leur paroisse, les curés sont impliqués dans ces travaux. mais leur tâche la plus importante est d'enseigner leur peuple. Ils le font de diverses manières, particulièrement par la prédication des dimanches et fêtes. Le sermon développe les grandes vérités de la foi et de la morale. Le prône, plus écouté, est plus concret et touche davantage le vécu des gens. Monseigneur Langevin donne cette directive. Cette prédication doit être claire, courte, mise à la portée des auditeurs, bien préparée et dans un langage correct. Elle doit porter sur ce que les fidèles doivent savoir pour se sauver, les vices qu'il leur faut éviter et les vertus qu'ils ont à pratiquer. Pour compléter et accumuler des mérites, indulgence, les curés proposent sous l'instigation de l'évêque un grand nombre d'associations religieuses. La Société de la Croix, la Société de la Sainte Famille, la Société de Saint Joachim, la Congrégation des Enfants de Marie, la Société de Saint Joseph, l'œuvre de la propagation de la foi, l'œuvre de Saint François de Sales, la Sainte Enfance et plusieurs associations pieuses. Mais la base de l'enseignement religieux est le catéchisme qui se fait à l'Église, particulièrement à l'occasion de la première communion pour les enfants de 10 et 11 ans, dans les familles, il s'agit tout au plus de répétitions, et d'abord et avant tout à l'école. D'où les efforts de Mgr Langevin dans le domaine de l'éducation. Une Église incarnée. Dès son arrivée, Mgr Langevin définit son diocèse comme une grande famille pour qui il a une affection paternelle. Aimez vos âmes, travaillez à leur salut, nous intéresser à votre bonheur temporel et éternel, nous réjouir avec vous dans vos joies, prendre part à vos peines et à vos épreuves. Il base sur la colonisation et l'agriculture le développement régional qu'il préconise avec son clergé. Il en fait une œuvre patriotique et religieuse qu'il appuie, entre autres moyens, par l'organisation peu réussie d'une société diocésaine de colonisation en 1883, des sociétés d'agriculture et des cercles agricoles. Il intervient régulièrement auprès des hommes politiques sur tous les sujets qui concernent le bien-être de ses diocésains, pour la voirie aussi bien que pour les écoles. Frère d'Hector Langevin, un des pères de la Confédération, il manifeste une préférence notoire pour le Parti conservateur et diabolise le Parti libéral à l'occasion des élections. Son clergé ne le suit pas unanimement, bien au contraire, ce qui entraîne particulièrement une grande crise avec plusieurs curés en 1890. Conclusion. En ce moment, Mgr Langevin a perdu son bras droit, Edmond, décédé en 1889. Il est totalement désemparé et perd pied. Rome lui accorde un coadjuteur en 1890 et demande sa démission en 1891. Il meurt le 26 janvier 1892. À sa mort, Mgr Langevin laisse un diocèse jeune et encore pauvre, mais assez bien organisé pour prendre son essor. Il a été un grand bâtisseur, appelé comme il l'appréhendait en 1867, à fonder un nouveau siège épiscopal sans ressources humaines et par conséquent à tout créer, tout organiser.